Chapitre 25. Désespérée après sa rencontre avec Yann la veille, Bannon n'était plus d'humeur à admirer les merveilles d'Ile-Dakar. Toute la journée, il rumina seul, tentant d'imaginer comment il pourrait aider son ami. Sinon, son esprit n'était plus qu'un tourbillon de remords cuisants et de souvenirs attendrissants. Enfant, Yann et lui adoraient récupérer de grosses chenilles sur les choux, puis les entreposer dans des jarres où ils les nourrissaient de feuilles jusqu'à ce qu'elles se transforment en chrysalides, puis en grands papillons blancs, une espèce très commune sur l'île. Après, les deux sacripants partaient à la chasse aux papillons entre les plants de choux. Parfois, faute de ballon, ils s'envoyaient et se renvoyaient des choux jusqu'à épuisement. Quand ils s'ennuyaient, les deux complices trouvaient toujours un moyen de s'amuser, du genre aller jouer dans les flaques de leur crique privée. Dès qu'il pensait à cet endroit, Bannon voyait devant son œil mental l'expression de Yann tandis que des norukai le frappaient et l'entraînaient vers leur canot. Comment imaginer ce que le pauvre garçon avait subi ensuite? Tabassé, violenté et quoi d'autre encore? S'il était couvert de cicatrices, ça ne devait rien au hasard, bien entendu. Fractures, plaies, contusions, il avait tout connu. Un grognement primal monta de la gorge du jeune escrimeur. Il avait imploré Yann de lui pardonner, mais il ne méritait pas d'être exaucé. La lâcheté d'un instant, oui, une fraction de seconde, lui avait coûté son estime de soi. Yann, lui, avait tout perdu. Mais comment s'était-il retrouvé à Ile-Dakar? Quel itinéraire fou avait-il suivi, capturé sur Shiraya par les Norukai, pour finir dans une cité de légende, gladiateur dans une arène? Douce mère la mer, comment était-ce possible? J'aurais dû être à sa place. Ils m'ont pris avant lui, mais je l'ai abandonné. Si longtemps après le drame, sa douleur toujours intacte, Bannon aurait préféré que la situation soit inversée. Lui capturé et Yann heureux avec ses parents et sa petite sœur Irène. Quand il avait déboulé dans le village en criant au secours, il était déjà beaucoup trop tard. La perte d'un fils avait fait exploser la famille de Yann. Quant au père de Bannon, il avait pris un malin plaisir à le traiter de lâche. Conscient que c'était justifié pour une fois, le jeune garçon ne s'était pas révolté contre ses insultes. Alors que son ivrogne de père lui empoisonnait déjà la vie, pourquoi ne s'était-il pas sacrifié pour son ami? Enfant heureux, Yann aurait épousé un jour la plus belle fille de l'île, et certains soirs, qui sait, il aurait peut-être bu à la mémoire de son ami perdu. Après l'avoir abandonné, Bannon avait encore souffert des années sous le joug de son père, jusqu'à l'épisode des chatons noyés. En essayant de les sauver, il avait livré sa mère à la fureur d'une brute, perdant ainsi sur tous les fronts. Après avoir trahi Yann, ça faisait beaucoup. Dans la haute ville, sous un beau soleil, la chaleur était écrasante. Errant dans les rues, Bannon fut bientôt en sueur et décida de retourner à la villa. En chemin, il tomba sur Amos et ses amis, désœuvrés comme à l'accoutumée.
Notre ami Bannon a l'air morose, dit Amos. Et nous, on ne sait pas quoi faire. Et si on lui remontait le moral?
Et comment on va s'y prendre?
Demanda Jed.
Un tour chez les Yaksen de soie, peut-être, proposa Brock. Même s'il fait la fine bouche.
Il pourra toujours nous regarder, Mélodie et moi, dit Amos. Je promets de ne pas lui demander une chanson ce coup-ci.
Les joues rouges, Bannon secoua la tête.
J'ai juste envie de retourner dans ma chambre. Pas question, mon gars. Reste avec nous et tout va s'arranger.
Au prix d'un gros effort, Bannon esquissa un sourire.
Vous pouvez faire quelque chose. À dire vrai, j'ai une faveur à vous demander.
Une faveur? Répéta Amos. Tu l'as méritée.
Bannon plissa le front.
On m'a toujours dit qu'on demande une faveur, pas qu'on doit la mériter.
À Ile-Dakar, on voit les choses autrement,
lâcha Brock.
Hier, dit Bannon, je suis allé dans la salle d'entraînement près de l'arène.
Les trois jeunes gens éclatèrent de rire.
Adessa pourrait te faire une faveur, mais ça aussi, il faudra le mériter. Pour qu'une mort acide s'intéresse à toi, tu devras lui prouver tes compétences de guerrier.
Non, vous me comprenez mal. Douce mère la mère, aidez-moi.
Bannon prit une grande inspiration.
J'ai besoin de vous pour libérer mon ami Yann, le champion. Vous avez de l'argent et des relations. Les patrons de l'arène vous écouteront.
Le champion? Fit Brock. C'est un trop gros morceau.
Amos ne semblait pas de cet avis.
C'est faisable. Laisse-nous un peu de temps.
Nous en reparlerons. »
Bannon aurait su dire si Amos parlait sérieusement ou se fichait de lui. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas d'autre option.
« Plus tard ? Quand ? Si vous veniez le voir avec moi ?
Demain ? » coupa Amos. « Aujourd'hui, on est trop occupés.
Je croyais que vous n'aviez rien à faire. »
Par les gonades du gardien, on ne t'a pas encore montré le fleuve vu depuis le bord du gouffre, un des plus beaux endroits d'Île Dakar. Tu mérites de découvrir ça. Allons-y, et nous te donnerons un petit cours d'histoire. »
Jed s'appuya à une colonne de marbre, Amos sauta d'un pied sur l'autre comme pour se réveiller, et Brock, après avoir tiré sur sa cape, roula des épaules comme s'il se préparait à un combat.
« De là-haut, » dit Amos, « on voit les bateaux de pêche et les gros navires qui sillonnent le fleuve. »
Il fit un clin d'œil à Bannon.
« T'auras l'impression d'être un seigneur. »«
Je n'ai jamais eu cette ambition, » dit Bannon. « À l'origine, je suis un fermier spécialisé dans les choux et un aventurier. Enfin, mon rêve était de voir le monde. »
Il tapota le pommeau de solide.
« Puis Yann a été enlevé. »
Amos et ses amis n'avaient à l'évidence aucune envie d'entendre cette histoire. Quand ils s'éloignèrent à grandes enjambées, Bannon leur emboîta le pas et s'engagea à leur suite sur un chemin sinueux. En route, ils croisèrent une charrette remplie de citrons et de grappes de raisin. Leurs outils sur l'épaule, des charpentiers allaient et venaient sans cesse, car à Île Dakar, on était toujours en train de réparer, de nettoyer ou de surélever les bâtiments. Précédés par un esclave qui promenait en laisse un chat tigré orange, une noble détentrice du Don salua distraitement les trois jeunes gens, sans un regard pour Bannon, évidemment. Le quatuor passa devant des fontaines où des ouvriers et des esclaves puisaient de l'eau ou faisaient leurs ablutions. En plus des aqueducs chargés de la distribution de l'eau, des caniveaux assuraient le drainage puis la récupération. Quand ils furent enfin au bord du gouffre, Bannon regarda en bas et crut que son estomac allait lui remonter dans la gorge. La pique était vertigineuse et la roche semblait des plus friables. Un génie de l'escalade aurait peut-être pu s'attaquer au défi, mais la moindre erreur lui aurait coûté la vie. Amos désigna le gouffre.
« Tu vois de quoi sont capables les sorciers d'Île Dakar ? Jadis, la ville se dressait au bord du fleuve. C'est le fleuve qui a creusé cette vallée, avec une plaine qui s'étendait dans toutes les directions. Mais cette proximité avec le port faisait de nous une cible trop tentante. Nous étions faibles. »«
Faibles, nous ? »
dit Jed. « Jamais !»
Amos n'apprécia pas l'interruption.
« Comme des asticots par un cadavre, les envahisseurs étaient attirés par notre vulnérabilité. » Alors nos sorciers ont surélevé la plaine du côté de la ville pour créer une falaise difficile d'accès et aisée à défendre. Au pied de cette muraille, ils ont laissé un port, histoire que les navires fluviaux puissent accoster. De plus gros bateaux en provenance de l'océan via le delta du fleuve peuvent aussi y mouiller.
Très loin sous ses pieds, Bannon vit un réseau complexe de quais et de jetées. Dans ce port, il distingua une multitude de petits bateaux. Des barques de pêcheurs aux poissons ou aux coquillages, des collecteurs de boues marines ou de roseaux.
« C'est bien beau, » dit Bannon. « Mais de là-bas, comment convoyer des choses en ville ?»
Au moment où il parlait, des barges chargées de tonneaux approchaient des quais.
« Regarde mieux, » dit Amos.
Bannon se pencha et vit toute une série d'encoches dans la roche qui devaient être des prises. Pour accéder à Surplomb du Monde, il fallait aussi escalader une falaise, mais cette ascension-là paraissait beaucoup plus dangereuse.
« Comment gravir cette muraille avec un chargement ?»«
L'idée, c'est qu'il soit difficile de passer du port à la ville. Regarde ce que doivent faire les esclaves !»
Non loin des quais, un pêcheur avait empilé des paniers pleins de poissons frais sur une plateforme reliée à des cordes elles-mêmes connectées à des poulies au sommet de la falaise.
« Tu vois ces grandes roues au bord du gouffre ?» Et les autres qui leur sont reliés sur la corniche à peu près au milieu de la falaise? C'est ce qu'on appelle un système de poulies. Quand la cargaison sera prête à partir, des esclaves viendront tourner ses roues et la plateforme s'élèvera.
Un peu plus loin, un chargement de blocs de pierre venu d'une carrière proche attendait son tour.
Les gens doivent escalader, conclut Amos. Mais les marchandises ont des monte-charges.
C'est un bon système, dit Jed, à condition d'avoir assez d'esclaves.
« Et la magie ?» se demanda Bannon. « Pourquoi ne s'en servent-ils pas pour hisser les cargaisons ?»«
Les anciens sorciers ont même modifié le courant !»
dit Amos en désignant un endroit au pied de la falaise où l'onde venait clapoter contre la roche.
Puis ils ont fait en sorte que le fleuve déborde de son lit au sud, afin de transformer en marécage les terres situées de l'autre côté du fleuve. Crois-moi, pour s'y frayer un chemin, il faut avoir le cœur bien accroché. »
Amos eut un sourire mauvais.
« D'autant plus que nos sorciers de chair ont peuplé la zone avec des serpents et des lézards géants modifiés qui se sont reproduits à toute vitesse. Bref, nous ne craignons aucune attaque venant de là. »«
D'accord, » dit Bannon. « Mais le général Outros, venant du nord, a traversé les montagnes puis investi la plaine. Une telle armée aurait fini par conquérir votre ville malgré toutes ses défenses. »
Jed et Brock se regardèrent, l'air troublé. Amos, lui, eut un soupir dédaigneux.
C'est pour ça qu'il a fallu pétrifier tout le monde. Outros a échoué, le règne de Kourgan s'est mal terminé, et Ildakar est toujours là, fière et puissante.
Au bord du gouffre, à quelques rues de là, une tour ornementale étroite tutoyait le ciel. Au sommet, Bannon distingua des fenêtres d'observation. Derrière, il vit deux silhouettes qui sondaient le fleuve en criant et en gesticulant. Puis, ces sentinelles remplacèrent l'étendard de la ville qui flottait sur un mât par un simple drapeau triangulaire bleu. Des habitants qui avaient vu la substitution de bannières relayèrent les appels des vigies.
« Que se passe-t-il ? » demanda Bannon. « Ces hommes ont vu quelque chose ?»
Amos, Jed et Brock se tournèrent vers l'aval du fleuve.
« Regardez ! Les bateaux arrivent à une très bonne vitesse !»
Bannon repéra deux grands navires qui luttaient contre le courant. Avisant leur voile carré bleu foncé, et il sentit son sang se glacer dans ses veines.
Pour invoquer une brise pareille, ils ont dû utiliser beaucoup de sang,
dit Amos, réprobateur.
Sûr qu'ils sont pressés d'accoster. Ils ont dû voir que le linceul était désactivé, dit Jed, et ils veulent en terminer avant qu'il soit trop tard.
Les deux navires approchèrent rapidement. Pour avancer si vite contre le courant, ils devaient en effet être propulsés par une puissante magie. Bannon en eut l'estomac retourné. Quand les proues seraient assez près, on verrait qu'elles étaient sculptées en forme de serpent.
« Ce sont des navires de nos roucailles, » souffla-t-il. « Viennent-ils attaquer Ildakar ?»
Dans ce cas, il se réjouissait déjà de voir les deux bâtiments écrabouillés par les sortilèges que les sorciers ne manqueraient pas de déchaîner. À tout hasard, il posa quand même la main sur le pommeau de Solide. S'il le fallait, il combattrait aux côtés des défenseurs.
« Bien sûr que non, espèce d'idiot !»
s'écria Amos.
« Les Norokais sont nos meilleurs partenaires commerciaux. Je parie que ces bateaux nous amènent entre 150 et 200 prisonniers. »«
Du sang frais nous fera du bien !» fit Brock. « Demain, le marché aux esclaves grouillera d'activité. »«
Des esclaves ?»
répéta Bannon.
« Les Norokais sont des pillards qui capturent des innocents dans les villages. »«
Ils vendent des esclaves et nous en achetons !»
dit Amos, avec un drôle de regard pour le jeune escrimeur.
« Il faut renouveler le cheptel. À cause de masques miroirs, beaucoup d'esclaves s'évadent. Et qui peut dire combien il faudra de sang pour restaurer le linceul ?»
Quand il pensa aux tourments que Yann avait dû endurer, Bannon vit littéralement rouge. Du coup, il remarqua à peine les habitants d'Ildakar qui se précipitaient au bord de la falaise pour accueillir les Norukai.